Je me souviens qu'on parlait de ça, moi, quand j'étais plus jeune, la fameuse maladie du distemper. D-I-S-T-A-M-P-E-R. Distemper. Puis ça, c'était les chiens, puis envoyez donc. Puis ça, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de ça. Mais écoutez, là, on vient de recevoir un communiqué de la part de la SPCA où cette maladie serait aurait ressurgi, je vais le dire comme ça, dans les locaux, semble-t-il, de la SPCA, puis possiblement avec une recrudescence de cette maladie-là. Je veux savoir de quoi s'en retourne tout ça et qui de mieux que Claudia Forgette, vétérinaire, bien sûr, directrice médicale chez Anima Plus, deux cliniques en Outaouais. Je vais aller la rejoindre tout de suite. Docteur Forgette, bonjour.
Oui, bonjour.
Hey, distemper, il me semble, on ne parlait plus de ça.
Effectivement que, je veux dire, ça fait 25 ans que je suis en carrière. Je vous dirais qu'au début de ma carrière, il y avait encore un peu de cas de distemper. Mais par la suite, on en a vraiment pas vu beaucoup. Et je pensais bien que c'était à cause qu'on avait vacciné en masse. Donc, je sais pas, la recrudescence de cette maladie est reliée à quoi, là, mais...
Mais premièrement, c'est quoi, maladie?
Oui, mais en fait, le distemper, c'est un virus. Il est dans la même famille que le virus de la rougeole, dans la famille des paramyxovirus. C'est un virus qui est très contagieux. Là, quand je dis qu'il est dans la même famille, il faut juste que je fasse un petit bémol. On n'attrapera pas le distemper du chien. Là.
Okay.
C'est vraiment juste pour dire qu'il fonctionne de la même façon, mais c'est ça. Donc, c'est très contagieux. Quand un animal n'est pas vacciné, comme un jeune chiot ou un chien âgé aussi, c'est des animaux qui vont avoir moins de chances de s'en sortir que ceux qui sont vaccinés. Il peut toucher autant des animaux de la faune aussi, comme les ratons laveurs, les renards, les loups, les moufettes. Et les furets sont sensibles aussi au distemper.
Mais OK, mais c'est, comment poser la question? C'est quoi? C'est, OK, c'est un virus, mais ça fait quoi au chien?
Bien, c'est ça. Le virus, quand le chien l'attrape, bien, première chose, il va l'attraper par, c'est dans l'air, par des contacts directs et indirects. Donc, un chien à chien, dans les selles, la salive, dans les ustensiles, les couvertures, les endroits où les animaux ont siégé là, pendant qu'ils étaient infectés. Ça attaque, la première chose que ça va faire, ça va aller au niveau des nœuds lymphatiques. Vous savez, nous, on appelle ça des ganglions, souvent, là, chez les humains. C'est des ganglions. Et ils vont maturer là-dedans. Ils vont incuber pendant une semaine. Donc, la première semaine que notre animal a été mis en contact, on devrait pas vraiment voir des symptômes. Mais ensuite, là, il s'en va. Il décide dans quel système qu'il s'en va. Il peut toucher un ou plusieurs systèmes. Je vous explique. Mettons, système respiratoire. Ben, notre chien va faire une pneumonie. Il va avoir des sécrétions au niveau des yeux, du nez. Si on touche au niveau urogénital, ben ça peut être des infections au niveau génital ou au niveau de la vessie, des vomissements, de la diarrhée. On va voir de la fièvre. Hein. Les premiers symptômes, ça va être une grosse fièvre. Il peut y avoir des yeux rouges, des sécrétions du nez, des yeux, pas manger, être léthargique, être vraiment fatigué. Donc, tous ces symptômes-là sont très vagues. Puis en disant ça, ben je me dis, ça peut aller même jusqu'à l'épilepsie, la paralysie. Donc, ça peut ressembler à la maladie de Lyme, ça peut ressembler à la toux de chenille, ça ressemble à bien des affaires. Donc, c'est super important d'aller vérifier chez le vétérinaire, voir si c'est juste une petite toux de chenille ou finalement on est avec quelque chose de plus grave.
Ah ben ouais, pas... juste en passant, là, comment on sait si notre chien fait de la fièvre?
Ben, c'est sûr qu'on n'a pas toujours... Je pense que tout le monde devrait se tenir un thermomètre à la maison. La température normale d'un chien, ça va aller entre 38,5 et 39,3-4. En haut de 39,7, on commence à considérer que c'est de la fièvre. Mais les signes de notre chien manquent pas. Comme nous, quand on fait de la fièvre, on est plus abattu. Donc, notre chien qui mange moins, qui est abattu... Des fois, les gens ils vont dire « Ah, ben le nez de mon chien est tout sec, il doit faire de la fièvre. » C'est pas obligé que parce que le nez est sec, c'est de la fièvre. Le chien, en dormant, va pas humecter sa truffe. Donc, souvent, quand il va se réveiller, même s'il fait pas de fièvre, la truffe va être sèche. Donc, on ne se fie pas nécessairement au nez sec, mais plus aux symptômes de abattement. Puis qu'il mange pas, on peut prendre une petite température, puis si la température est en haut de 39,7, on a un petit quelque chose qui se passe. Pas nécessairement le distemper, c'est bien sûr. Là.
Non. Mais en passant, le thermomètre, un thermomètre normal, puis on rentre ça où, là?
Dans l'anus.
OK.
Puis quand on rentre dans l'anus, on reste pas dans le plein milieu de la crotte. On va aller coller notre thermomètre sur les muqueuses sur chaque côté parce que sinon ça va fausser un peu les résultats. Donc on fait une petite pression légère là sur une des parois et on attend là. On peut.
Combien de temps?
Ben dans le fond les thermomètres aujourd'hui vont nous faire des petits bip-bip pour dire qu'ils ont eu la stabilité. Ça peut prendre peut-être 5-10 secondes là.
Okay.
C'est pas long.
OK. Mais un thermomètre, on achète ça. Y a-tu des thermomètres pour animaux?
Non, ce sont des thermomètres pour humains qu'on achète en pharmacie.
OK. Bon, OK, on en apprend des affaires. OK, là, là, mettons là que mon chien, il a le distemper. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant épouvantable, je devrais m'énerver comment?
Eh oui, 12.
Oh! Oh! OK.
Oui, il n'y a pas de traitement de guérison contre le distemper. Les animaux qui ne sont pas vaccinés ont beaucoup plus de chances de décéder. Certains animaux vont être capables de passer au travers avec des soins de support. Hein. Donc, on n'a pas, là, mettons, une injection ou une pilule miracle qui va guérir cette maladie-là. Mais c'est dans les soins de support. Mettons, mettre l'animal en hospitalisation avec des sérums, donner des antibiotiques pour ses pneumonies qu'il a développées, puis espérer qu'il va finir par avoir l'immunité intérieure assez forte pour s'en sortir. C'est important de savoir que c'est pas une épidémie non plus. C'est peut-être un cas isolé, puis on l'espère. C'est pour ça qu'on recherche un petit peu à savoir avec le propriétaire du chien là, de la SPCA, un petit peu avec quel animaux il a été en contact pour essayer justement de rapetisser le foyer d'infection.
OK. Mais ce virus-là là, existe dans l'air tout le temps, mais parce qu'on vaccine bien nos animaux, il y en a eu moins? C'est tout ça que je comprends?
Dirais, il n'existe pas nécessairement dans l'air. Il est très sensible. Il ne vivra pas longtemps dans l'air. Il va vivre dans l'animal, mais effectivement, il y a des animaux qui vont le donner à d'autres animaux.
Ouais. Puis c'est juste... Est-ce que ça, les chats aussi sont sensibles à ça?
Non, c'est vraiment plus dans la famille du chien, comme on le disait, là, des loups, des renards, la moufette aussi, le furet. Mais le chat semble pas... Il y a d'autres choses. Les vaccins de routine, là, on en parle, puis des fois, on se dit, moi, vacciner mon chien, ça vaut-tu vraiment la peine? Ben, c'est un peu le penchant de ça aujourd'hui qu'on voit. Les animaux, quand ils sont vaccinés, ont beaucoup plus de chances. Le vaccin est efficace.
Mais le vaccin, c'est lequel qui vient?
C'est le vaccin de base. Quand on vous dit, mettons, en clinique, on va vous vacciner pour le vaccin de base, à l'intérieur de ça, la première infection qu'on protège, c'est le distemper.
Ah, je comprends. Très intéressant. Fait que, écoutez, ça veut dire qu'il faut être très à l'écoute des symptômes, puis pas niaiser avec ça, puis se croiser les doigts, parce que s'il faut être énervé 10, 12 sur 10, on est dans la misère. Là.
Ben c'est quelque chose de grave, d'autant plus c'est ça, c'est qu'on n'a pas de traitement comme ça pour traiter puis guérir. Et puis les animaux, quand on en a un qui est atteint, immédiatement il faut qu'il soit isolé pour empêcher la propagation. On n'en veut plus là de comme dans les années 60, 70 où c'était super commun. On n'en veut plus de ça.
Non. Je peux-tu juste terminer parce qu'il me reste quelques minutes. Vous avez abordé un sujet qui est intéressant. Là, vous avez parlé du nez, puis qu'il était sec, pas sec. Un chien, êtes-vous en train de me dire qu'un chien, dans sa journée normale, une de ses jobs dans la vie, c'est d'humecter son nez?
Oui.
Pour?
Oui, effectivement. C'est la truffe, souvent, on va le voir, il va aller se lécher le nez. Ouais. Et puis, oui, on voit ça comme ça.
Pourquoi?
Ben, c'est une muqueuse qui a besoin d'être hydratée, j'imagine.
Eh bien. Fait que ça veut dire que si notre chien a le museau sec toute la journée, peut-être qu'il faut consulter.
Je dirais pas nécessairement. Certains animaux ont peut-être accepté une truffe un peu plus moins humide. Puis ça peut être vraiment normal aussi, mais je pense que lors de la consultation annuelle, ça vaut la peine de le souligner puis de regarder un petit peu ce qui se passe avec ce nez-là.
Eh bien, très intéressant.
Je m'inquiéterais pas trop là-dessus, pas autant que le distemper.
Non, hein? Pas trop sur le nez. OK! D'ailleurs, nous autres, on aime faire une farce avec notre bubble, puis on l'appelle nez en chocolat. Alors...
C'est cute!
C'est cute, hein? Ben, c'est ça. Fait que je voulais vous parler du nez. Mais toujours fascinant de vous écouter. Merci beaucoup, Dr. Forgette. Je vous retrouve la semaine prochaine, OK?
Merci.
OK, bye.
Au revoir.
OK, Claudia Forgette, elle est médecin vétérinaire. Elle est directrice médicale chez Anima Plus, deux cliniques médicales en Outaouais. Moi, je fréquente celle qui est tout près du Collège Saint-Alexandre. Un excellent service.